Bonjour à tous. Comme chaque vendredi, on vous propose un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, on se glisse dans la peau d'un patron du CAC 40.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Son bilan économique n'a pas convaincu les actionnaires. Isabelle Kocher a été débarquée la semaine dernière de la direction d'Engie, le géant français de l'énergie. Après son départ à la fin du mois, il n'y aura plus une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Si la parité progresse dans la société, elle peine de toute évidence à gagner le monde des grands patrons. Un monde en pleine évolution à l'heure de la montée en puissance de l'économie numérique. Le métier de haut dirigeant se transforme, mais les salaires des grands patrons continuent de faire débat, tout comme leurs relations souvent incestueuses avec le pouvoir politique. Alors qu'est-ce qu'un bon patron? Comment les hauts dirigeants sont-ils recrutés? Et quelles sont leurs responsabilités face aux actionnaires, mais aussi face aux salariés? Voilà les questions que nous allons poser à nos trois invités. À 14h50, on retrouvera la chronique de Catherine André, notre partenaire d'Alternatives économiques. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Pierre-Henri Leroy.
Bonjour Madame.
Vous êtes président et fondateur de la société d'analyse financière Proxinvest, une agence de conseil pour les actionnaires. À vos côtés, Karl Lazard. Bonjour.
Bonjour Tiffany.
Vous êtes PDG et directeur associé du cabinet de recrutement Kenbaum France, spécialisé entre autres dans l'accompagnement des dirigeants du CAC 40. Et enfin Jean-Philippe Robet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et New York, spécialiste du droit de l'entreprise. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Monsieur le directeur.
Oui.
Vous signez les chèques.
Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas.
C'est la fin du mois.
Encore? Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois. Et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Et puis après un jour, ça s'arrête.
Je suis de plus en plus nerveux, irritable.
Tu crois que c'est la fête de nos jours de diriger une usine de parapluies avec 300 ouvriers, de se bagarrer quotidiennement avec le comité d'entreprise, avec les syndicats? Je te parle pas ni de la TVA, ni du blocage des
prix. Papa disait déjà la même chose.
De son temps, c'était du gâteau.
Oh.
Oui, ce grand patron, vous le redouterez. Vous l'admirerez, puis vous l'aimerez, dans sa grandeur comme dans ses faiblesses.
Michel Gagnon, l'homme d'affaires, le player, le winner.
Vous savez, derrière l'homme d'affaires, il y a avant tout un homme comme les autres. C'est ça que j'aimerais bien que vous capturiez.
Je me suis donné un an pour redresser la barre. Faut être les premiers, Louis. Les premiers. Sinon, à quoi bon ?
La figure du patron vue par la fiction de Claude Zidi à François Ozon. On a là tous les clichés, l'avarice, l'autoritarisme, l'arrogance. Le patron est une figure qu'on adore critiquer, particulièrement en France, Jean-Philippe Robet.
Oui, particulièrement en France, je ne suis pas sûr, mais c'est normal que tant de choses portent sur le patron. Si vous voulez, il est dans une position complexe et difficile. Il est mandataire social, donc il est mandaté par des actionnaires pour diriger une entreprise. Et pour diriger cette entreprise, ben évidemment, il le fait avec des salariés avec qui il va travailler et satisfaire tout le monde, les clients, les fournisseurs, l'environnement politique local, l'environnement politique national pour les plus grandes d'entre elles. Évidemment, ça génère des tensions. Donc on invite quelqu'un qui se trouve aimé par les uns, moins aimé par les autres, voire détesté.
C'est sa position au croisement des actionnaires et des salariés qui en fait une figure qui peut être une cible assez facilement, Pierre-André Leroy.
Ah non, moi c'est Pierre-Henri Leroy.
Pierre-Henri Leroy, excusez-moi.
Non, la réalité, si vous voulez, c'est que Tiffaine, c'est que je suis tout à fait d'accord, c'est une position impossible et compliquée. Mais bon, c'est un beau métier aussi, parce que c'est un métier de responsabilité humaine large, polymorphe, ce sont des hommes qui n'ont pas beaucoup de vie privée, parce que par définition, ils doivent être sur le pont 24 heures sur 24. Ça demande des qualités humaines absolument remarquables, intellectuelles évidentes, mais en même temps une disponibilité que on trouve pas si fréquemment que ça, mais qui se trouve. Mais je pense que ça n'a rien. Le problème de la désaffection pour le patron n'a rien à voir avec la mission du patron. En France, on n'aime pas les patrons parce que l'autorité en France est très mal vécue pour des raisons diverses.
Donc vous diriez que en France c'est un sentiment plus fort qu'ailleurs. Karl Lazard, vous êtes d'accord avec cela ?
Moi, je pense que c'est un peu plus fort qu'ailleurs, et notamment si on compare à l'Allemagne où il y a beaucoup plus de respect, même des petits patrons, des patrons d'ETI. D'ailleurs, en France, il y a moins de successions dans les ETI. Et je pense qu'une partie du problème est que la reconnaissance sociale est moins bien pour un patron français que de l'autre côté du Rhin, par exemple. Et il y a toujours une image de patron filou quand c'est une petite entreprise, et quand c'est la grande entreprise, c'est le patron qui gagne des millions aux dépens des salariés. Et il y a un petit côté français là-dedans.
On va voir comment cette question de la rémunération est évidemment centrale. Mais d'abord, commençons par l'actualité et ce départ d'Isabelle Kocher de la tête d'Engie, qui a fait beaucoup parler de lui. Le mandat de la directrice générale du groupe n'a pas été renouvelé. Elle était à son poste depuis 4 ans. Si ce départ suscite autant de réactions, Pierre-Henri Leroy, c'est d'abord parce qu'il s'agit de l'avenir d'un géant énergétique français.
Ah oui, oui, effectivement. C'est une première incroyable, d'ailleurs, d'une certaine façon. Enfin, c'est pas la première fois qu'un patron est débarqué, mais c'est la première fois qu'on a un patron qui est un peu débarqué en disant c'est les actionnaires, c'est les actionnaires. En fait, l'État est l'actionnaire qui est derrière ça. Il n'y a pas de mystère. Il y a un seul actionnaire qui n'est pas content de Madame Kocher, c'est l'État français pour des raisons purement politiques. Pour moi, à mon avis. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai jamais compris l'explication de cette première extraordinaire. Pour une fois, une femme est débarquée. Peut-être qu'il y aura des hommes un jour débarqués. On ne sait jamais.
C'est-à-dire pour des raisons politiques?
Je ne les connais pas. Mais si vous voulez, le fond de la chose, c'est que il y a dans ce dossier quelque chose de tout à fait étonnant. C'est qu'on n'a pas... On n'a pas un problème de performance hallucinant, et on n'a jamais vu ça en France. Une boîte qui marche plutôt bien, qui a des problèmes de transformation, mais qui les gère. Donc on voit brusquement quelqu'un qui est éjecté parce que, bon, il y a des gens qui veulent prendre la place. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue.
On sait qu'effectivement l'État est actionnaire à hauteur de 24% et que Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration, a eu plutôt du mal à justifier cette éviction, Jean-Philippe Roubet.
Oui, je crois que le dossier est très compliqué en fait, et qu'il y a énormément de facteurs qui ont joué en faveur de cette éviction. Bien sûr, le fait qu'il s'agisse d'une femme, ça fait pas beau dans le paysage. Mais de ce que je comprends quand même, il y a eu une série de maladresses vis-à-vis de deux présidents du conseil d'administration successifs. Je crois comprendre que l'ensemble du conseil d'administration, qui comporte 6 femmes, était opposé au renouvellement du mandat de cette personne, et que, justement, quand on parle de style de management, une forme d'autoritarisme a été rejetée.
C'est intéressant de vraiment relever cette opposition, cette bataille qu'il a opposée au président du conseil d'administration, Jean-Pierre Clamadieu, puisque ce qui apparaît dans cette situation, c'est qu'on a une direction bicéphale. On peut se demander pourquoi l'État tenait à séparer les fonctions de président et de directeur général, Karl Lazar.
Oui, écoutez, on touche ici au problème de la gouvernance à un ou deux niveaux. Il y a effectivement ces deux modèles dans le monde, et souvent en dehors de la France d'ailleurs, c'est un modèle à deux niveaux avec un directeur général qui a les pleins pouvoirs pour gérer l'entreprise et un président de conseil qui anime la supervision, la représentation des actionnaires et sont là pour faire du sounding board et contrôler en partie aussi, voilà.
Et donc cette séparation, c'est plutôt voilà. Une nouveauté en France.
Alors en France, on vient plutôt d'une culture d'un patron tout-puissant PDG. Et ces dernières années, ça évolue. Donc aujourd'hui, c'est équilibré en France. Vous avez un peu les deux modèles. Il y en a qui militent plutôt pour rester sur l'ancien parce que, voilà, sous prétexte que ça permet d'aller plus vite, d'avoir une personne qui décide tout. Mais voilà, l'histoire est plutôt dans un mode de patron avec un conseil de surveillance, et je pense que c'est ce qui permet de garder des équilibres.
Ceux qui critiquent.
Et des contre-pouvoirs. Et on a vu ces derniers temps qu'un patron trop puissant, trop longtemps, ça peut aussi mener à des dérives, voilà.
Il y a des avantages et des inconvénients qu'on peut un petit peu essayer de définir. Ceux qui critiquent la direction bicéphale, la séparation donc entre le conseil de surveillance et la direction, disent que c'est une structure un petit peu trop lourde. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe Robet?
Alors, il y a deux choses différentes. Hein. Quand on vous parlait de conseil de surveillance, c'est quand vous avez une société à conseil de surveillance et directoire. ce qui n'est pas le cas ici. C'est au niveau du conseil d'administration, vous avez un président du conseil d'administration qui peut être ou ne pas être directeur général. Et en l'occurrence, c'est cette situation dont il s'agissait. On avait un président, on a un président du conseil d'administration et une directrice générale. Je note d'ailleurs que la directrice générale par intérim est également une femme. Donc on a bien toujours...
Enfin, c'est l'une des trois. Ils sont trois à reprendre ce poste par
intérim. Il y a un triumvirat, mais celle qui est directrice générale au niveau du CABIS, c'est bien une femme. Mais c'est une remarque en passant. La séparation des fonctions a quand même beaucoup d'avantages. Mais elle implique une entente entre le directeur général et le président, une communication qui doit bien fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, et en l'occurrence chez Engie, ça ne fonctionnait pas, qu'on se met à dos tous les membres du conseil d'administration, quand votre légitimité vient du conseil d'administration, c'est un petit peu difficile de s'en sortir et faire paraître des articles dans la presse en disant « voilà, je suis une victime du système politique ». Je crois que ça n'a pas aidé.
Cette séparation entre la direction et le poste de président du conseil d'administration, elle est risquée en cas de différence de cap, comme le disait Jean-Philippe Robet, Pierre-Henri Leroy.
Elle est pas. Non, je pense que c'est vraiment ce que vous venez de dire qui me paraît être le fin mot, c'est qu'il faut que les gens s'entendent déjà dès le départ. Si dès le départ on a une situation de malentendu et si cette situation de malentendu empire, c'est catastrophique. Donc là, il y en a un qui doit céder. Et en l'occurrence, c'est vrai que l'histoire, la hiérarchie normale, c'est que vous savez, les actionnaires sont payés les derniers, s'il en reste. Hein, c'est-à-dire que tout le monde a été, les clients, les salariés, tout le monde a été payé, l'État, tout le monde a été payé, mais les actionnaires touchent quelque chose. En échange de quoi, ils ont un pouvoir ultime aussi, de trancher in fine. Donc in fine, c'est les administrateurs qui représentent les actionnaires qui tranchent.
Karl Lazar.
D'abord, il y a plusieurs cas récents où des directeurs généraux ont dû quitter. Il y avait le cas de Sanofi, il y a plus récemment le cas du groupe Sor. Là, effectivement, c'était un grand groupe et c'était une femme et la seule femme à la tête d'un groupe du CAC 40. Donc, évidemment, c'était en lumière.
Et puis, on a aussi dit que c'était parce qu'elle avait abordé un tournant vers les énergies renouvelables.
Oui, c'est ce qu'on dit.
Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Cédric Villaline qui lui ont apporté son soutien.
Oui. Mais je rejoins un peu ces messieurs. Il y a les résultats qui n'étaient pas forcément catastrophiques. Il y a les compétences qui sont sans doute là, mais ce qui est très important aussi, c'est que il faut s'entendre. Il faut s'entendre. On est nommé par le conseil. On se doit d'avoir un comportement qui satisfait les membres du conseil, que ce soit en communication, ne pas court-circuiter certaines choses, partager des décisions. Et souvent, c'est ce critère-là qui est pas là et qui font que les actionnaires ont le dernier mot à la fin.
Et cette séparation des pouvoirs peut aussi être l'objet d'une sanction. On l'a vu avec le patron de Boeing, Dennis Muilenburg, qui s'est vu retirer son titre de président du conseil d'administration dans le sillage du scandale du 737 MAX, par exemple.
Oui, il y a des cas de crise où finalement... on est obligé de réagir. Enfin, le conseil est obligé de réagir.
C'est aussi une façon d'affaiblir un dirigeant.
Voilà. Même si on ne sait pas encore, c'est comme les scandales du diesel à l'époque chez Volkswagen. Bon, on ne savait pas encore exactement qui était fautif ou pas. Dans le passé, il y avait eu un cas d'espionnage chez Renault. Il s'est avéré que il y a des personnes qui ont été sacrifiées et qui sont avérées pas être fautifs. Mais au moment des faits, c'est vrai que souvent les actionnaires, le conseil se doit de réagir et de changer les choses rapidement. Et ça, c'était le cas évidemment chez Boeing. Ouais.
Alors le départ d'Isabelle Cochère pose évidemment la question de la parité dans le monde des grands patrons. Je vous propose d'écouter à ce sujet Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF. C'était le 17 mars 2017.
Vous savez, on dit souvent que le poisson pourrit par la tête. On peut espérer aussi que quand les choses vont bien au sommet, ça se diffuse ensuite dans toute l'institution, en l'occurrence dans toute l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises françaises ont été chercher des femmes ces dernières années, souvent d'ailleurs des femmes étrangères, parce qu'elles s'ouvrent aussi à la mondialisation, nos grandes entreprises, et ça introduit quelque chose de nouveau, de différent, un ton tout à fait roboratif, je dirais, dans la direction des grandes entreprises.
Voilà, alors ça progresse, nous dit Laurence Parisot, mais le moins qu'on puisse dire, Pierre-Henri Leroy, c'est qu'il reste du chemin à faire.
Oui, je crois que le chemin est bien commencé en France, c'est assez réjouissant, et c'est vrai que ça apporte la mixité, l'équilibre la représentation des sexes est tout à fait souhaitable. Elle apporte beaucoup d'éclairage, beaucoup d'enrichissement dans les décisions qui sont prises pour la gestion des entreprises.
Ça, c'est clair. Ça progresse, mais plus on monte dans la hiérarchie, plus on se rend compte qu'il y a peu de femmes. On le voit avec LVMH, par exemple. Il y a 3/4 des effectifs de la firme qui sont des femmes, mais quand on va du côté du conseil d'administration, là, il n'y a plus qu'un tiers de femmes, Jean-Philippe Robet.
Oui, mais le pourcentage, en plus, est imposé par la loi. Donc, c'est malheureusement l'effet de quotas. Non, je crois qu'il y a un réel problème de parité dans notre pays et que les choses sont extraordinairement lentes à évoluer. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup du cas de Engie. Parce que malheureusement, de ce point de vue-là, ça va pas dans le bon sens. Mais il y aurait 15 femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40, on en aurait beaucoup moins parlé.
Moi, je voudrais défendre les quotas. Je voudrais vraiment défendre les quotas. Si on a eu une évolution en France, c'est grâce aux quotas. Faut être très réaliste. Sans les quotas, il n'y aura plus une évolution.
Je remets pas en cause le quota. C'est juste pour dire, c'est pas parce que les entreprises l'ont fait volontairement. C'est parce qu'on leur a imposé la présence des femmes que ça se produit.
Donc, si vous voulez, on peut pas parler d'un changement de mentalité.
On critique souvent la loi. De ce point de vue-là, la loi a eu un effet positif, mais c'est pas un changement des mentalités.
Ah, c'est vrai. Karl Lazare.
Oui, moi personnellement aussi, au départ, j'étais contre les quotas, voilà, philosophiquement, parce que ça, en tant que chasseur de tête, finalement, on cherche à recruter la meilleure personne, qu'elle soit homme ou femme, voilà. Mais force est de constater, et c'est vrai que sans les quotas, on n'aurait pas avancé du tout, parce qu'il y a beaucoup de mentalités à changer. Voilà, il reste beaucoup de chemin à faire. Il y a des groupes comme L'Oréal qui ont la problématique inverse, qui aimeraient avoir un peu plus d'hommes aussi. Donc, voilà, c'est pas tout blanc, tout noir.
Ça pose en tout cas la question de la formation, comme le disait ici Laurence Parisot. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de la question des femmes, les grands patrons étaient formés traditionnellement, Karl Lazare, dans les grands corps d'État. Ça a été longtemps le cas.
Alors en France, oui, quand vous regardez les patrons, statistiquement, il y a des chances qu'ils arrivent de l'ENA, de l'IX ou dans les corps respectifs d'État. Après, je crois qu'il y a de moins en moins de parachutage au sens où il y en avait peut-être dans les années, il y a 10-30 ans, enfin à l'époque des 30 Glorieuses, c'était quand même une industrie aussi très, très centralisée avec des grands programmes d'État. Et voilà, aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais c'est vrai que c'est une spécificité française. Si vous regardez en Allemagne, 25% des grands patrons ont commencé par faire un diplôme d'apprentissage. Alors ils ont fait autre chose après, ils ont peut-être fait un doctorat, mais ils ont commencé par là.
Aujourd'hui, seulement 10% des dirigeants actuels des entreprises du CAC 40 sont passés par l'ENA. C'était 25% il y a 10 ans. Comment on explique cette évolution, Pierre-Henri Leroy ?
Par l'échec total de la culture des énarques pour la gestion des entreprises. Il faut être très clair. Le fond de la chose, c'est que ce sont des gens qui ne comprennent pas l'échange. On ne leur a pas appris l'échange. On leur a appris la triche, on leur a appris l'obéissance, la fidélité à la mort et la triche. Mais on ne leur a pas appris l'échange. Et l'échange, c'est justement le contraire. Normalement, l'échange est équilibré. Normalement, l'échange, c'est pas la triche. Donc, ils ont un vrai problème.
Vous parlez vraiment de management.
Dès qu'ils touchent au marché, ces gens sont catastrophiques, ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Le propre d'un énarque, c'est d'être un type qui est prêt à faire marcher sur la loi si nécessaire, comme les polytechniciens d'ailleurs, qui avaient aussi venu d'une culture différente, mais l'idée qu'il fallait marcher sur la loi si nécessaire. Donc, on n'a pas du tout à faire.
C'est un point de vue.
Oui, absolument. Je suis assez radical là-dessus.
On va voir si Jean-Philippe Robet le partage.
Bon, c'est toujours un sujet compliqué à aborder en France parce qu'il est vrai qu'il y a des réseaux de pouvoir extraordinaires qui sont encore très, très, très efficaces. Je crois que ce qui pousse au changement, c'est l'internationalisation de l'économie. Il faut aujourd'hui des patrons qui soient en mesure de comprendre le monde global qui est le nôtre, et il est possible que notre système éducatif ne les ait pas particulièrement bien préparés, notamment s'agissant des énarques, mais pas seulement.
Karl Lazare, vous qui êtes polytechnicien, vous avez sans doute un autre avis.
Écoutez, moi je pense que le changement est à l'œuvre. Il y a deux exemples assez concrets, assez récents, le patron d'Air France, et le patron de Renault, si je peux, parce que voilà, historiquement Air France, boîte étatique, avec voilà, c'était des grands commis de l'État qui venaient essayer de piloter tout ça, et Dieu sait s'il fallait connaître un peu les rouages de l'État pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, il y a plus de temps d'apprentissage, comme vous dites, un énarque, il est Il n'est pas patron, hein, et d'ailleurs un patron n'est pas politicien, il y en a qui se sont aussi brûlés dans la politique. Voilà, donc aujourd'hui il n'y a plus le temps d'apprendre, tout va beaucoup trop vite, les patrons sont tout de suite face aux médias, face aux réseaux sociaux, voilà. Et connaître un secteur, une industrie, avoir déjà des réflexes, des convictions, et pouvoir aussi piloter un peu par intuition, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, je crois que voilà, recruter un Ben Smith qui connaît le secteur, faire un effort peut-être sur évidemment le salaire, puisqu'il faut attirer des gens, mais donc c'est un premier exemple. Et l'exemple de Renault, dans le passé on a eu Jean-Martin Foltz, Louis Schoetzer, qui ont été des bons patrons. Je pense que c'était une autre époque, qui avait, et l'automobile c'était encore le diesel, la mécanique, ça avait pas bougé depuis 100 ans. Ouais, aujourd'hui vous avez de la mobilité, des télécoms à cause de la voiture connectée, vous avez des sujets d'assurance, demain
Renault
la voiture connectée,
donc
il faut des gens qui déjà maîtrisent, si vous voulez, l'écosystème, et vont s'occuper de toutes les disruptions, parce qu'il y en a de plus en plus, voilà. Et donc je suis ravi de voir que le choix a quand même été fait de, alors certes un Italien, parce qu'il n'y en a pas 36 dans le monde.
Alors il faut préciser que
français,
c'est l'ancien patron
la voiture,
de Site, donc il est déjà, voilà, de l'entreprise Site, il est,
voilà,
déjà
il
dans
est
le secteur.
Voilà, c'est ça, il est dans l'automobile depuis toujours, il a commencé chez Renault d'ailleurs, et il a fait pas mal de constructeurs, donc il a fait preuve d'adaptabilité, il a connu même les Japonais, donc voilà, après l'enjeu reste énorme.
Donc la grande différence, voilà, la mutation qui s'opère, c'est que dans ce monde plus complexe, plus rapide, les grandes entreprises cherche désormais des dirigeants qui sont spécialisés dans un secteur donné, qui peuvent passer à l'action tout de suite, Jean-Philippe Robé.
Mais c'est absolument fondamental. Si vous voulez, si on ne connaît pas un secteur et qu'il faut un an pour comprendre comment il fonctionne, on a raté les investissements, on n'est pas dans le bon timing, et c'est l'assurance tout risque, de l'assurance de la catastrophe. En l'occurrence, vous avez quelqu'un qui a pris la tête de Seat il y a presque 4 ans. L'entreprise était moribonde. En 4 ans, il l'a prodigieusement redressée ce qu'on lui reconnaît surtout à Luca de Meo, c'est un immense talent en termes de marketing. Et de ce que je comprends, c'est quelque chose qui manque sérieusement au niveau de Renault. Donc, si vous voulez, le fit semblait à peu près parfait. Il semble à peu près parfait. Mais pour cela, il faut aller chercher un Italien qui travaille en Espagne à la tête d'une entreprise, d'une filiale espagnole d'un groupe allemand. C'est ça la réalité du monde économique.
Et ça, c'est assez nouveau que la profession de grand patron s'internationalise comme ça, Karl Lazar.
Alors, c'est nouveau en France, notamment dans les entreprises où l'État est actionnaire, voilà. C'est pas nouveau dans le monde, puisque voilà, notamment par exemple dans la pharmacie, il y a beaucoup de Français qui sont à la tête de boîtes internationales, dans le retail aussi, hein, tout ce qu'on appelle la distribution, parce qu'on a des gros acteurs aussi en France avec des leaders mondiaux, donc qui sont une bonne école de management, et donc des groupes américains ont fait appel à des Français aussi pour piloter ces mois. Donc
ils ont fait
c'est
appel
pas
aux
si
meilleurs scénarios, voilà, aux meilleurs politiciens, je précise, attention. La réalité, c'est effectivement qu'il y a cette ouverture qui se développe, qui est très heureuse et qui est absolument nécessaire.
Mais... Alors ce qu'on constate aussi parmi les mutations qui agitent ce monde des grands patrons, c'est qu'il y a aujourd'hui une vigilance accrue à l'égard des conflits d'intérêts. On l'a vu avec l'exemple de Thierry Breton, qui est le premier ex-patron à accéder au poste de commissaire européen, et il a dû faire la preuve qu'il n'entretenait plus de lien avec son ancienne entreprise Atos. Jean-Philippe Robé, une plus grande vigilance, vous diriez ?
Oui, évidemment, le conflit d'intérêts, c'est quelque chose d'absolument catastrophique, et il faut être extraordinairement vigilant à cet égard. En même temps, il faut ne jamais oublier que ce qui compte avant tout, c'est la capacité des hommes et des femmes à remplir leurs fonctions, évidemment avec l'honnêteté qu'on doit attendre d'eux.
Parce qu'il y a le conflit d'intérêts, mais il y a aussi la proximité entre les élites économiques et les élites politiques qui est régulièrement pointée du doigt.
Oui, mais je pense que c'est un tort, parce que trop séparer le domaine qu'on voit privé de la très grande entreprise et de domaines qu'on voit publics de l'État, c'est en fait ne pas comprendre le monde complexe dans lequel on est. Tout ça est enchevêtré, les intérêts sont en grande partie communs, évidemment il y a divergences d'intérêts entre les institutions publiques et les entreprises, mais quand même, malgré tout, les entreprises ont intérêt à ce que l'État fonctionne bien, et l'État a intérêt à ce que les entreprises fonctionnent bien. Et pour ça, il faut se connaître, il faut se coordonner d'une certaine manière.
Et effectivement, donc, Emmanuel Macron et Thierry Breton se sont croisés un certain nombre de fois au cours de leur carrière respective dans le privé, et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a nommé Thierry Breton.
Et ça facilite le fonctionnement derrière. Alors, il faut être très attentif aux conflits d'intérêts, mais c'est quand même une bonne chose que les gens puissent se parler, pour la même raison que ce dont nous parlions tout à l'heure, entre le président d'un conseil d'administration et son directeur général. Il faut que les gens se comprennent.
Mais dans le cadre du conseil d'administration, il y a un contrôle qui s'opère. On peut se poser la question si cette proximité entre élite économique, élite politique, relations incestueuses parfois, selon certains, est un problème ou non, Karl Lazar.
Surtout dans les conseils. Enfin, c'est pour ça que depuis quelques années, il y a pas mal de recommandations autour de la bonne gouvernance, et notamment des membres du conseil, et notamment de l'indépendance des membres du conseil, qui, pour représenter entre autres les actionnaires, on appelle ça minoritaires, ils sont pas toujours minoritaires pris ensemble, mais les actionnaires qui ne sont pas représentés au conseil, on va dire ça comme ça,
et
nécessité d'avoir des gens un petit peu en dehors de l'écosystème, indépendants, et je crois de plus en plus les cabinets de chasse vont chercher aussi des administrateurs vraiment indépendants, qui viennent parfois d'une culture différente, d'un secteur différent, et c'est quelque chose qu'il faut préserver évidemment et continuer à rester vigilant, parce que le naturel peut revenir au galop, hein, c'est souvent.
Il y a une plus grande surveillance de la probabilité de survenue d'un conflit d'intérêts aujourd'hui, Pierre-Henri Leroy.
Alors moi, je suis pas du tout de cet avis. Je pense que malheureusement, il y a un laxisme colossal aujourd'hui sur les conflits d'intérêts, et en particulier sur un sujet qui m'est très cher, qui est le problème de contrôle des conflits des conventions, réglementées, qui sont les conventions d'intéressés, qui sont les transactions qu'a pu faire par exemple Carlos Ghosn sur ses propres sur les sociétés sur lesquelles il avait la supervision, et malheureusement il l'a fait en totale complicité des commissaires aux comptes, et les commissaires aux comptes ont été payés des millions, je parle de EY Japan, enfin c'est tout de même Ernst & Young, c'est un grand cabinet. Totalement complices, et personne, pas de sanctions. Ces gens-là sont encore totalement innocentés, ils sont encore en poste, alors qu'ils ont laissé tout faire, et ils considèrent ça comme normal. Moi, personnellement, je considère que c'est extrêmement grave. Alors, les régulateurs ont leurs responsabilités. L'AMF,
l'Autorité des marchés financiers.
Ils ont leurs responsabilités. Ça fait des années qu'ils ferment les yeux sur ce genre de choses. Ça fait des années que je demande un resserrement des contrôles. Ça fait des années aussi que la profession des commissaires aux comptes ignore complètement ce sujet, parce qu'ils sont dans un processus de concentration et de recherche des très gros clients, et donc le très gros client, on s'écrase et on dit rien. Mais il y a un vrai sujet, à mon avis, sur la problématique des conflits d'intérêts en général, c'est qu'ils ne sont plus du tout contrôlés.
Alors à quoi ressemble ce marché mondial des grands patrons? Comment s'opère leur recrutement? On va voir cela plus en détail dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny. Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you know you're just tall, that's all. Got me working, boss man, working around the clock. I want a little drink of water, but you won't let bigger stop, big boss man. Now can't you hear me when I call? I said you ain't so big, you know you're just tall, that's all. You're just tall, that's all. All right.
one's gonna treat me right. I work hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Can't you hear me when I call? I said you ain't so big.
Big Boss Man d'Elvis Presley sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes en compagnie de Pierre-Henri Leroy, Karl Lazard et Jean-Philippe Robet pour observer les métamorphoses du monde des grands patrons. Alors le recrutement des hauts dirigeants d'entreprise est un énorme business qui a connu une forte croissance ces dernières années. C'est ce que dit The Economist dans un article paru la semaine dernière. Vous confirmez, Karl Lazard, vous qui dirigez un cabinet de recrutement?
Oui, le marché du recrutement et notamment des très hauts postes est en forte croissance parce que il est en croissance aussi sur les services annexes en fait au recrutement, c'est-à-dire que pour professionnaliser finalement cet acte de recrutement, les cabinets commencent à proposer des diagnostics, des assessments de candidats internes, externes. Effectivement, il y a un travail amont que ces cabinets essayent de faire avec le conseil d'administration ou les familles, quand c'est des groupes familiaux, pour aligner parfois aussi les intérêts et la vision que chacun a sur l'entreprise, la feuille de route, l'attendu finalement d'un nouveau patron, et ensuite seulement commencer à faire la chasse et la recherche.
Voilà. Il faut dire que c'est un travail gigantesque, puisque l'année dernière, les patrons de 310 entreprises cotées ont quitté leur poste aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau marché qui est dominé par 5 géants américains du recrutement, qu'on appelle les Shrek à cause des premières lettres de nom de ces entreprises, Jean-Philippe Robet?
Ces cabinets ont un pouvoir considérable et ont un impact considérable sur la manière avec laquelle les entreprises seront gérées ensuite. Donc la concentration est probablement un problème. Mais on a un meilleur expert que moi.
On peut se demander comment cette industrie, en fait, c'est a émergé, cette industrie du recrutement des grands patrons, Karl Lazard.
En fait, ils sont quand même 5. Enfin, c'est les big five. On parlait des big five dans l'audit ou dans le conseil. Bon, dans la chasse de tête, il y a aussi les big five. Voilà, ces fameux Shrek. Donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est une forte concentration, sachant que dans chaque pays, il y a aussi quelques cabinets qui travaillent à très haut niveau. Donc voilà, moi je pense
vous diriez que c'est, voilà. Ça s'est professionnalisé,
alors oui,
cette
bien
industrie.
Sûr, ça s'est énormément...
Parce que elle a émergé quoi, après la Seconde Guerre mondiale?
Alors elle a émergé après la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, les 30 Glorieuses, beaucoup de recherches. Elle a eu un deuxième souffle assez fort aussi avec la mondialisation, où il fallait trouver des gens... en Asie et puis des boîtes européennes avaient besoin de dirigeants hors Europe, des boîtes américaines en Europe, donc évidemment tout ça a poussé et aujourd'hui elle se développe de plus en plus effectivement dans ces services autour de préparation, de professionnalisation. Beaucoup de ces cabinets ont recruté d'anciens McKinsey, BCG aussi pour apporter plus le conseil autour de ce recrutement.
Vous diriez qu'aujourd'hui, voilà, ce sont des outils indispensables pour les multinationales?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour la bonne gouvernance et pour les métiers internationaux. Et c'est considéré comme tel, en tout cas dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, 90% on fait appel à un cabinet. Ouais.
Sur ces cabinets de recrutement, Pierre-Henri Leroy?
Ah oui, je partage cette opinion. Je pense que ça, c'est plutôt un progrès d'avoir effectivement des gens. L'indépendance des cabinets, c'est généralement pas formidable, puisque par définition, ce sont des gens qui travaillent pour qui les paye. Ce sont des avocats financiers qui sont par définition corvéables à merci. Bon, et c'est toute la problématique de la gouvernance d'entreprise d'avoir donné les moyens au comité de rémunération ou au comité de nomination d'avoir un budget, d'être capable de choisir soi-même son conseil, parce que sinon on entre très facilement, en tout cas en France on en est encore là, complètement dans l'orbite du patron exécutif qui fait savoir que c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler, que ces gens-là sont ses amis, voilà.
C'est lié au fait que ces métiers, ces compétences, les compétences recherchées sont de plus en plus pointues, Jean-Philippe Robet, et aussi peut-être que les actionnaires sont de plus en plus exigeants.
Oui, il y a deux choses. Il y a 25-30 ans, Les recrutements, c'était tiens, je connais un tel qui connaît un tel qui m'a dit qu'un tel ferait le job. Et puis on interviewait, ça se passait pas mal autour d'un bon dîner. Ou pas bien, et puis la décision a été prise. Je caricature un petit peu, mais si vous voulez, c'était le temps, on peut dire, un peu de l'amateurisme. Donc la professionnalisation de la recherche avec le processus qui a été décrit pour pouvoir identifier le bon profil, c'est évidemment un grand progrès. Il y a aussi un aspect moins glorieux, si vous voulez, c'est que là, on a créé autour du conseil d'administration, dans les très grandes entreprises, des comités de recrutement, des comités de rémunération, etc. Une manière de se décharger de la décision de qui est le bon candidat, c'est aussi de professionnaliser, d'externaliser la sélection des candidats.
Alors, et c'est aussi parce que la compétition est forte, peut-être que les rémunérations sont élevées et que ces profils sont peut-être de plus en plus difficiles à trouver.
Ah ben oui, bien sûr, évidemment. Comme on l'a dit, c'est un marché mondial, donc c'est pas la France qui fixe les niveaux des rémunérations. Et d'ailleurs, en la matière, on n'est pas en tête de la course. Si vous le regardez, ben, le cas des Mélos pour rejoindre le groupe Renault a dû accepter une coupe sévère dans sa rémunération.
Alors ça, on va revenir là-dessus parce que c'est important en effet. Mais d'abord, sur la question des exigences des actionnaires vis-à-vis de la personne qui va diriger l'entreprise, est-ce que le fait que les fonds de capital investissement sont de plus en plus présents dans le capital des entreprises, on a parlé aussi parfois d'activisme actionnarial, est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui joue en faveur d'une plus grande pression autour du choix du dirigeant ? Karl Lazar.
Oui, c'est justement, il faut aligner les intérêts de chaque actionnaire parce qu'elles sont pas identiques. L'État actionnaire, il veut que les usines restent en France, pour faire simple, qu'il y ait du boulot en France. Il veut que la rémunération soit pas excessive parce que sinon ça va poser des problèmes politiques. Voilà. Le fonds d'investissement, lui, il veut de la rentabilité. Bon, voilà. Et c'est partout pareil. Quand vous allez dans une famille, il y a parfois trois branches. Il y a une branche qui gère la boîte. Il y a une branche qui considère ça comme un investissement financier. Il y a une branche qui laisse dormir les choses. Donc voilà, je pense que le rôle du consultant, c'est déjà de bien comprendre la feuille de route de chaque actionnaire, d'essayer de, pas d'arbitrer, parce que c'est pas lui qui arbitre, mais que la discussion au sein de ce comité de nomination ou des branches familiales ou des multiples actionnaires se fasse.
Oui, mais certains actionnaires sont plus offensifs que d'autres.
Et la clé, c'est de bien définir qu'est-ce qu'on attend de la personne, voilà.
Certains actionnaires sont plus offensifs que d'autres, car
oui,
les fonds de capital investissement font entendre leur voix peut-être davantage.
Il peut y avoir des injonctions contradictoires. Et je peux vous dire, j'ai connu des patrons qui avaient trois actionnaires, les trois étaient des fonds, mais même eux avaient des horizons de temps différents pour vendre à la boîte, etc. Donc, je dis parfois dans des recrutements aux dirigeants que dans le cahier des charges, en fait, c'est pas que gérer la boîte, c'est aussi gérer les multiples actionnaires. Ouais, il y a des jobs où vous passez 50% de votre temps pas à gérer la boîte, mais à gérer les actionnaires. Bon, voilà. Et donc c'est pas le même profil que le dirigeant qui doit absolument redresser une boîte rapidement.
Mais alors, comment on choisit un patron pour répondre aux envies des différents actionnaires ?
C'est de choisir, de mettre d'accord les gens sur qu'est-ce qui doit être fait par ce patron avant de parler du profil du patron. Voilà. Alors, on a tous tendance à dire je veux un tel, j'ai besoin de faire ça, mais en fait, voilà, le secret, c'est d'abord de passer par là et ça peut prendre un peu de temps.
Voilà. Du coup, impossible de définir ce qu'est un bon patron. Vous allez me dire que ça dépend de ce que veulent les actionnaires.
Alors, moi, je pense que c'est ça, oui, parce qu'il y a des bons patrons pour des contextes différents et il y a des mauvais patrons. Après, évidemment, intrinsèquement, il y a quand même des qualités de leadership, de communication intrinsèque. C'est humain. Si, il y a quelques fondamentaux, mais fondamentalement, c'est quand même un fit entre une feuille de route avec des actionnaires et des qualités personnelles, une expérience qui va avec.
Jean-Philippe Robet, sur ce qui fait un bon patron.
Si vous voulez, c'est une grande entreprise, c'est une très grande organisation avec une immense diversité d'intérêts entre actionnaires, entre salariés, mandataires sociaux, dirigeants, cadres dirigeants extraordinaires. Et on peut penser à un parallèle qui est celui de l'État, si vous voulez. À la tête des États, vous avez quelquefois des politiciens qui défendent tel ou tel intérêt particulier et qui s'intéressent pas trop à l'intérêt général. Et puis vous avez des hommes et des femmes d'État. Même pour les entreprises, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes d'entreprise qui font passer l'intérêt de l'entreprise avant les intérêts particuliers. Mais ça exige une capacité de communication à l'égard de tous les divers intérêts pour faire comprendre où se situe le barycentre de l'ensemble écologique. Ça demande une qualité remarquable que souvent les dirigeants sociaux n'ont pas.
C'est pas du tout mon style, les fêtes fastueuses.
Versailles.
Ouais, enfin, Versailles, il y a eu deux. Il y a eu une fête pour l'Alliance, une fête sur 15 ans.
Pour les 15 ans de l'Alliance.
Oui. Alors, on m'a reproché d'avoir fait à Versailles. Oui, bon, bien sûr, je l'aurais
fait.
Vous
êtes pris pour Louis XIV.
Je l'aurais fait. Non, franchement, moi, Versailles, c'était pas Louis XIV pour moi. Versailles, c'était le génie français. C'est le rayonnement de la France. C'est l'endroit le plus visité par les étrangers. Quand vous dites aux étrangers Versailles, ils ouvrent les yeux, ils sont comme des gamins, ils veulent venir. Et comme c'était une fête qui était pour les étrangers, qui nous avait aidé à constituer l'Alliance, je trouvais que c'était un bon moyen. Alors derrière, les gens ont dit Louis XIV, Marie-Antoinette, ils se prennent pour qui, etc. Franchement, ce n'était pas l'objectif.
Voilà, vous avez reconnu Carlos Ghosn au micro de Léa Salamé sur France Inter. Au-delà des accusations de malversation financière, c'est la folie des grandeurs de l'ancien patron de Renault qui a été largement pointé du doigt. Alors aujourd'hui, pourtant, ce qu'on constate, c'est plutôt une hausse générale du niveau des rémunérations. Pierre-Henri Leroy, c'est ce que vous avez montré avec votre cabinet Proxinvest.
Bah, c'est qu'en fait, on a observé... les Français ont été à peu près raisonnables pendant des années. Ils sont tenus à un niveau qu'on avait essayé de fixer à 240 SMIC, ce qui était déjà colossal. À l'époque, le Canard Enchaîné m'avait traité de tous les nombres en disant que c'était un chiffre énorme. Mais en fait, on cherchait à plafonner.
Bon, aujourd'hui, c'est 277.
Depuis. Voilà, vous avez vu, ça a été largement dépassé. J'en suis assez attristé. Mais la réalité, c'est que, et effectivement, à partir du moment où on est dirigeant d'une entreprise française, il ne faut pas prétendre aux rémunérations des Américains. Les Américains sont un univers américain, un système fiscal très différent, un système d'exigence très différent du système français. Donc, un patron français qui veut se faire payer comme un patron, comme le patron de General Motors, c'est à mon avis irrecevable.
Le problème, c'est que les salaires des grands patrons augmentent trois fois plus vite que ceux des salariés. C'est ça que vous avez mis en valeur.
Ah, ça, c'est une évidence, mais ça procède du phénomène général de concentration financière qui est implicite dans nos conversations d'aujourd'hui. Si vous voulez, malheureusement, il y a un phénomène qui nous dépasse, qui est un phénomène de surconcentration financière, absolument pas bien maîtrisé, absolument pas considéré par nos régulateurs ou nos ministres, qui ont, au contraire, qui sont à fond dedans. Si je veux dire, la politique d'aujourd'hui, c'est de faire travailler Bloomberg, BlackRock, ou les plus géants des géants et les plus bêtes des géants des géants, puisque BlackRock, c'est de la gestion indexée, c'est fondamentalement une espèce de veau d'or de la concentration financière.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui expliquent tout de même cette hausse des salaires des grands patrons? On peut imaginer que c'est la rareté aussi sur le marché, comme on disait, Karl Lazar, qui entraîne ce phénomène.
On ne va pas dire une chose pareille. Même il ne faut pas poser une question à notre ami Lazar sur un sujet pareil, parce qu'il est là pour obtenir des mandats les plus élevés qui soient, ce que je comprends tout à fait, et trouver des patrons les mieux payés qui soient, ce que je trouve tout à fait normal. Et je rends hommage. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que cette inflation est un phénomène très grave et qu'il n'est pas géré par les politiques.
Karl Lazar.
Écoutez, d'abord, moi je respecte les volontés ou la législation locale qui parfois impose effectivement des plafonds, comme en France, hein, pour les boîtes qui appartiennent à l'État. Mais ça existe dans les groupes familiaux, il y a des familles qui se disent « moi je veux pas ». Voilà. Bon, ça limite le pool de candidats, c'est effectivement, vrai. Ça rend la chasse plus difficile, et peut-être avec des honoraires moindres. Mais je crois qu'il faut respecter ça, voilà. Donc moi j'ai pas de soucis.
Mais sur les justifications qui sont avancées souvent,
les compétences,
les responsabilités plus fortes.
Parce qu'il y a un marché global, c'est une denrée rare. Si on veut vraiment des gens compétents à l'instant T, on parlait de Renault, qui connaissent bien l'automobile, qui ont déjà fait leurs preuves à la tête d'une boîte, qui connaissent un peu les Japonais, tata, il y en a pas 36, voilà. Et après il y a un marché, et il y a aussi un marché par secteur. Bon, par exemple, la pharma paye beaucoup plus, et je sais que quand il faut recruter ou il a fallu recruter des dirigeants pour Sanofi, voilà, il y a des gens qui ont été écartés parce que parce que le choix, c'était de pas les payer.
Ouais. Il faut quand même souligner que cette hausse des salaires des grands patrons, tels qu'on les a analysés, expliqués il y a un instant, sont aussi liés au fait que certains patrons parmi ceux du CAC 40 sont extraordinairement payés par rapport à d'autres. C'est-à-dire que même au sein du CAC 40, il y a des divergences inouïes entre le patron de Dassault, qui est donc le premier salaire en 2018 avec un salaire de 33 millions, et d'autres patrons du CAC 40. Il y a des grosses divergences, Jean-Philippe Robet.
Oui, d'ailleurs, si on regarde les chiffres, en fait, si la moyenne de la rémunération des dirigeants du CAC 40 a augmenté de 4%, je crois.
Elle a augmenté de 12% en 2018 et elle est aujourd'hui à 5,8 millions en moyenne.
En fait, le salaire médian a diminué. Et si on prend le SBF 120, donc ce qui est plus représentatif, puisque c'est les 120 sociétés cotées à la Bourse de Paris, là, pour le coup, c'est là qu'il y a une baisse de 4% dans la rémunération des dirigeants. Donc, il n'y a pas un phénomène d'inflation généralisé. Il y a effectivement quelques cas particuliers. Vous en avez cité un, il y a Carlos Ghosn, ils sont connus, mais sont des gens qui tirent la moyenne considérablement. Il faut quand même regarder, on a une chance. Si vous voulez, on a un cas qui date de quelques semaines. Renault se cherche un directeur général, Luca De Meo. Cette personne a beaucoup réussi dans un groupe, Volkswagen, mais n'est pas dirigeant de Volkswagen. Il est dirigeant d'une filiale de Volkswagen. Et en tant que dirigeant de la filiale de Volkswagen, il gagnait plus que ce qu'il va gagner demain chez Renault. C'est ça le marché. Alors, il faut dépassionner, si vous voulez. Soit on se prive de cette compétence parce qu'on se dit oh, « bah non, il est trop payé », soit on veut cette compétence et à ce moment-là, on paye le prix. Il a accepté un package considérablement diminué qui ne le remettra au niveau où il était que s'il arrive à sauver Renault, parce que c'est de ce dont il s'agit aujourd'hui. Bah, franchement,
diminué, mais avec les primes, il est mieux payé que Carlos Ghosn. Moi, les chiffres que j'ai, c'est 4,7 millions par an pour Carlos Ghosn contre 5,85 millions d'euros pour Demeo en incluant les primes. Si Carlos Ghosn était plus payé, c'est parce qu'il avait aussi des rémunérations par Nissan.
Non, mais oui. Non. Mais Nissan, le poste qu'il reprend est le poste essentiel de Carlos Ghosn. Essentiellement, c'est ce que l'on souhaitait. Sauf que Carlos Ghosn a complètement cassé son propre poste en faisant voter il y a deux ans la renonciation des droits de vote de Renault chez Nissan. Donc c'est une situation qui ne se compare pas, si vous voulez. Il se payait de façon énorme, considérable, puisque c'était connu qu'il était à 15 millions, mais la réalité était très supérieure. Et là, effectivement, ce que vous disiez est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait par la personne qui vient pour accepter un job avec des perspectives formidables et qui fait un effort sur sa rémunération. Alors moi, là où je suis un petit peu en divergence avec vous, si vous voulez, c'est que je considère que la problématique de rémunération des grands patrons aujourd'hui, elle est complètement faussée par le phénomène de concentration financière. La problématique de rémunération dans les grands fonds est absolument non contrôlé. Donc on a des phénomènes généraux de concentration financière qui font que malheureusement c'est inflationniste. Et toutes les statistiques que vous pouvez regarder sur la rémunération des patrons sont malheureusement extrêmement inflationniste depuis 20 ans.
Et puis il y a la question des rémunérations et puis la question des retraites chapeaux qui ont été récemment régulées dans le cadre de la loi Pacte. Quel était l'objectif de ces retraites chapeaux au départ, Jean-Philippe Robet? Comment est-ce qu'elles fonctionnent?
Bon, on le sait, les retraites sont devenues un sujet sensible dans notre pays. Mais l'idée, c'était que, donner une rémunération élevée quand une personne passe ses nuits, ses jours, ses week-ends, ses vacances à travailler pour l'entreprise, oui. Que ça continue jusqu'à la fin des temps, non. Donc l'idée, ça a été de réduire.
Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le fonctionnement des retraites chapeaux?
La retraite chapeau, si vous voulez, c'est un complément par rapport à la retraite que le dirigeant va percevoir, qui lui permet d'avoir un minimum. C'est-à-dire, donc, par rapport à ce qu'il touche au titre de ses droits à retraite, l'entreprise paye la différence avec un montant qu'on appelle le chapeau qui fixe l'accord sur lequel il est, les deux parties se sont entendues.
Et donc il y a un plafond de 30% prévu par la loi Pacte. C'est un progrès, ça, pour vous, Pierre-Henri Leroy?
Pierre-Henri Leroy, j'insiste beaucoup. Non, écoutez, le fond de la chose, c'est qu'effectivement, la loi Pacte fait des efforts de restrictions sur ces domaines-là. Ce qui est extrêmement dramatique, si vous voulez, c'est que ça doit être le 7e ou 8e texte de loi que nous avons sur la rémunération des patrons. Et c'est toujours aussi inefficace, si vous me permettez, et ça pousse de tous les côtés. Donc moi, personnellement, on ne traite pas le vrai problème. Le vrai problème est un problème de concentration financière générale qui est incontrôlé et qui devrait être contrôlé. Donc il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui est en déséquilibre dans le système financier?
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe Robet?
Si vous voulez, de ce point de vue-là, il y a un chiffre quand même extraordinairement intéressant, c'est celui de la rémunération des hedge funds. Les hedge funds sont des fonds activistes qui font du boursicotage extrêmement dynamique sur les entreprises. Et pour l'essentiel, ce sont des fonds étrangers. Les derniers chiffres que j'ai, sur les 25 meilleurs dirigeants de fonds spéculatifs ont gagné ensemble 13,7 milliards d'euros en une année. Ce sont des individus. Ça donne une moyenne pour chaque individu de 548 millions d'euros. Donc si vous voulez, on dit, oh là là, les patrons français sont payés 5,8 millions d'euros, c'est vraiment énorme et c'est dégueulasse. Les patrons de hedge funds gagnent 100 fois plus.
Et de façon encore plus scandaleuse, puisque en plus, c'est sur le capital des autres.
Oui, ne créent aucune valeur.
Mais justement, ces fonds activistes, leur rôle et leur objectif, c'est de reprendre un petit peu la main dans le capital d'une entreprise, de placer éventuellement à sa tête quelqu'un d'autre qui permettra d'augmenter la rentabilité d'une entreprise. Est-ce qu'ils sont des clients réguliers pour vous, Karl Lazar?
Alors nous, on en a peu ici. Hein. Après, je pense qu'il y a des fonds activistes qui, alors évidemment, ils sont là pour faire de l'argent un peu plus rapidement que les autres, ça c'est vrai. Mais si vous voulez, s'ils arrivent à trouver une faille, c'est aussi parce que à un moment donné, le conseil ou la société n'a pas peut-être fait son devoir de faire la bonne stratégie ou la bonne réorganisation et qu'il y a quelque part un potentiel. Bon, après, comme partout, je pense qu'il y en a qui sont de bonne foi sur ça, et il y en a qui le sont moins. Et c'est comme les fonds d'investissement, il y en a qui ne jurent que par le dollar, et puis il y en a qui ont quand même d'autres valeurs, on va dire, et qui combinent tout ça.
Voilà. Les fonds qui interviennent dans le capital des sociétés cotées, qui interviennent directement en pesant sur les décisions, sont extrêmement rares. Et les gens que nous avons cités, c'est pas du tout ces mêmes personnes. Vous avez cité des gens qui font des fortunes dans les hedge funds, notamment sur les taux d'intérêt d'ailleurs. Donc ils n'ont rien à voir avec les actions. Et qui sont des gens qui sont des joueurs professionnels de haute qualité et qui jouent avec des capitaux considérables, avec des règles de rémunération en cas de succès qui sont absolument hallucinantes. Mais c'est pas le fond des fonds.
Un dernier mot sur les nouveaux défis qui attendent les grands patrons à l'heure de la gig économie, l'économie des plateformes et des petits boulots, Jean-Philippe Robet. Ça a transformé ce métier et ça les a poussés face à de nouveaux défis.
C'est plus un défi pour des gens dont on transforme le statut, c'est-à-dire que le statut du salariat va devenir un statut exceptionnel. On prend des gens qui bénéficient de droits attachés au contrat de travail et on les convertit en auto-entrepreneurs, en sous-traitants, etc., qui sont corvéables à merci et dont on se sépare comme on veut. Donc ça, si vous voulez, c'est la réalité de cette nouvelle économie.
On a tout fait avec des nouvelles figures de patrons, Mark Zuckerberg, par exemple, Karl Lazar, quels sont les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés?
Je crois que pour prendre un parallèle sur finalement ces sous-traitances, aujourd'hui même un grand patron, on parle d'entreprise étendue en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de connexions avec l'extérieur, y compris avec des startups, des grandes boîtes qui veulent travailler avec des startups pour pas louper la nouvelle technologie. Et il y a beaucoup de difficultés à se comprendre et s'entendre. Et voilà, ça c'est un des enjeux, je pense. Pour les grands patrons, en tout cas.
Eh bien, un grand merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur cette fabrique des grands patrons. C'est un vaste sujet, évidemment, qu'on va continuer à suivre au fil de l'actualité. Mais tout de suite, il est l'heure pour nous de retrouver la chronique de notre partenaire d'Alternatives Économiques.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Catherine André.
Bonjour Tiffaine.
Vous vous interrogez sur la validité des réponses européennes à la double crise écologique et sociale.
Oui, tout à fait. La violence des derniers épisodes climatiques nous le rappelle encore, si certains continuaient d'en douter. L'Europe est touchée tout autant que les autres régions du monde par le réchauffement climatique, par la montée des niveaux des mers, les crues des fleuves, les tempêtes assorties de vagues submersions. La puissante tempête Ciara, qui a récemment balayé l'Europe d'ouest en est et jusqu'en Corse, nous l'a encore démontré. L'Agence européenne de l'environnement vient de publier une série de cartes inédites comparant les conséquences en Europe en 2100 d'un réchauffement de 2 degrés ou de plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Tout montre que nous ne sommes pas prêts à supporter les différents chocs déjà présents et à venir provoqués par le réchauffement climatique. Des millions de personnes seront affectées durablement si rien n'est fait. Et nous savons que les plus pauvres d'entre eux seront les plus durement touchés. La crise climatique et écologique se double d'une crise majeure, elle aussi, due à la montée des inégalités, une crise sociale. Heureusement, de plus en plus d'économistes et de politiques affirment que l'on ne résoudra pas l'une sans l'autre, et certains estiment même que le règlement de la crise sociale et la réduction des inégalités sociales seront la condition préalable à la réussite des mesures de lutte contre le réchauffement climatique.
Et alors, les décideurs européens en sont-ils conscients, Catherine ?
De plus en plus, on pourrait penser, au lendemain de la crise financière de 2008-2009, l'un des objectifs de la Commission européenne menée par Jean-Claude Juncker était bien d'établir, je cite, une Europe plus sociale. La priorité affirmée semblait être, alors, d'effectuer un certain rééquilibrage entre la dimension économique et la dimension sociale, mais on est loin du compte.
Quid du pacte vert pour l'Europe présenté par la nouvelle Commission ?
Alors, si l'ambition affichée du pacte vert européen est très élevée, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre du monde en 2050, un des problèmes est que sa mise en œuvre va se faire avec un objectif de croissance économique inchangé et de discipline budgétaire. La nouvelle présidente de la Commission européenne a rappelé, je cite, que nous devons travailler dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. On le sait, la discipline budgétaire et des années d'austérité ont étranglé les franges les plus défavorisées de nombreux pays européens et a certainement largement contribué à la montée des populismes et de l'illibéralisme, et pas seulement dans les pays de l'Est. Les menaces qui pèsent sur la démocratie en Europe sont donc aujourd'hui très réelles et le délitement du tissu social en fait le lit. Certains disent que la Commission n'a pas visé assez haut en termes de montant d'investissement, mais aussi en termes de réorientation de son modèle économique, comme l'économiste Éloi Laurent de l'Observatoire français des conjonctures économiques, par exemple, qui plaide pour aller au-delà de cet objectif de croissance. Il rappelle notamment judicieusement, dans un article de la revue politique en ligne Social Europe, disponible en français sur Vox Europe, que le New Deal de Roosevelt, pour sortir de la Grande Dépression, n'avait pas eu pour but de rétablir la croissance, mais d'abord, je cite, de restaurer la démocratie américaine et de maintenir la paix.
Merci.
À bon entendeur.
Merci Catherine. Un mot sur la une d'Alternative économique ce mois-ci ?
Oui, donc ce mois-ci, c'est la une et ce sont les jeunes sont-ils sacrifiés ? Un dossier spécial qui donne un panorama de la situation des jeunes Françaises et Français aujourd'hui dans la société.
Merci Catherine et bon week-end.
Merci.
Waiting for a sign, something clear to bring the meaning back to life.
Nous nous quittons avec Joy Wave et leur dernier titre, Half Your Age. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'Écho. Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Auviné, Alain de Roucourt, à la réalisation, Émilie Valla, à la technique aujourd'hui, Théo Gomard. La semaine prochaine, nous explorons l'économie de la nuit aux côtés des noctambules, des patrons de bars et des marchands de sommeil. Par ailleurs, il vous reste un peu plus d'une semaine pour vous inscrire au concours La Parole aux 18-28 ans, organisé par France Culture et le Cercle des économistes. L'occasion de faire entendre votre voix dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Plus d'informations sur franceculture.fr et sur lesrencontreseconomiques.fr. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.